Ayatollah of Rock'n'Rolla. L'émission Metal Rock Psyché de Radio Saint-Afrique. Accrochez vos ceintures, détachez vos cheveux, ça va secouer. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Ayatollah of Rock'n'Rolla, l'émission qui forge le métal à grands coups de volutes psychédéliques et qui sculpte les consciences à force de philosophie anarchiste. Ce mois-ci, nous allons explorer notre peur primaire la plus profonde en exhumant les morts. Ce mois-ci, nous allons naviguer entre Eros et Thanatos en hurlant comme des loups. Ce mois-ci, nous allons triturer les entrailles de l'enfer en écoutant du death metal. Esprit sceptique et étriqué, vous voilà averti. Nous allons pousser les portes des préjugés les plus tenaces en nous payant une bonne tranche de violence musicale. Le death metal est un sous-genre du metal apparu dans les années 80 en Floride. Comme quoi, faut croire que le taux de retraités américains friqués qui viennent s'y installer a éveillé les angoisses de la jeunesse locale qui a su s'approprier les techniques de jeu du trash pour les dépasser et approfondir leur fascination pour la mort au point d'en faire l'unique objet de leur amour de métalleux. Metal extrême, le death metal est un genre musical longtemps décrié et victime de son originalité. Mais encore une fois, considérons cette musique et ce qu'elle signifie comme l'expression artistique, aux vertus cathartiques, d'une jeunesse en proie à ses propres angoisses. Certes, le noir est la couleur de prédilection des death metalleux. Certes, les paroles de certaines de leurs chansons ont des relents de satanisme. Certes, la provocation et l'agressivité sont l'une de leurs marques de fabrique. Mais laissez-moi vous guider dans cet univers maléfique où le plaisir n'est pas exclu. Et commençons tout de suite notre exploration de ces fonds souterrains diaboliques par l'un des morceaux fondateurs du genre. Le très bien nommé au titre laconique Death Metal par le groupe américain Possessed. Attention, montez le volume, le son est lui aussi underground.
Yeah.
Ah, ça réveille les morts, non? C'était le groupe Possessed, l'un des pionniers du death metal originaire de San Francisco, en Californie. Ses membres citent volontiers la New Wave of British Heavy Metal avec des groupes comme Judas Priest, Motorhead, Iron Maiden ou Venom comme principale source d'inspiration. Après une première démo sobrement intitulée Death Metal parue en 1984, ils publient leur premier album Seven Churches en référence aux sept églises d'Asie mentionnées dans l'Apocalypse en 1985. Le death metal est un genre qui apparaît à peu près en même temps que le thrash, mais qui s'oriente vers une plus grande audace musicale et vers une provocation plus radicale. Le chant de Jeff Becerra, devenu paraplégique à la suite d'une fusillade lors d'un vol en 1989 et qui aujourd'hui arpente les scènes métal en fauteuil, que l'on vient d'entendre dans ce premier morceau, était considéré à l'époque d'une violence inouïe, même si depuis il en a fait bien pire. Mais comme je vous le disais en début d'émission, c'est en Floride que le death metal a véritablement explosé. En 1988, le groupe Death, emmené par son talentueux chanteur et guitariste Chuck Schuldiner, publie son deuxième album, Leprosy. Enregistré au studio Mori Sound à Tampa, Floride, par l'ingénieur du son Scott Burns, qui deviendra le producteur privilégié des plus grands groupes de death, cet album déterminant a magistralement défini ce que serait alors le son du death metal, au point de devenir une référence indispensable du genre. Mais laissez-moi plutôt rendre un hommage chaleureux à Chuck Schuldiner, décédé prématurément en 2001 à l'âge de 34 ans des suites d'un cancer. Car contrairement aux idées reçues, il ne suffit pas de jouer de la guitare comme un bourrin et de hurler sur un micro des bribes de paroles morbides pour faire du death metal. Chuck Schuldiner, chanteur et guitariste du dit groupe Death, qui était l'un des musiciens les plus influents de sa génération et promis à un avenir radieux dans l'univers du metal, a su, le premier, apporter des structures jazz. Oui, oui, vous avez bien entendu, dans un genre a priori aux antipodes de ce dernier. Des mauvaises langues réactionnaires ont prétendu que sa mort, tout comme la paralysie de Jeff Becerra, n'était qu'une punition divine bien méritée pour ces jeunes blasphémateurs. Ce que j'en dis, moi, c'est qu'il y a deux leçons à en tirer. La première est que l'intolérance de ces réacs est largement plus violente et dévastatrice que la musique de ces jeunes possédés par le démon du métal. Et la seconde est que le système néolibéral qui favorise la concurrence et rend financièrement inaccessibles les soins les plus vitaux au peuple est le véritable responsable de la mort de Chuck Schuldiner et que nous devons l'abattre sans attendre. Death, pull the plug. We'll be right back. Et nous continuons notre exploration du death metal. Car derrière l'apparente simplicité de ses riffs brutaux et de son chant belliqueux, se cache une complexité d'une étonnante richesse pour qui sait s'y attarder. Eh oui, vous savez bien, vous, chers auditrices et auditeurs d'RSA, que dans la musique, comme dans la vie, il faut constamment chercher à dépasser ses peurs les plus coriaces pour ne pas sombrer dans le jugement le plus vil. Bref, le death metal emploie des guitares distordues, généralement accordées plus bas et faisant usage de techniques telles que le palm mute qui consiste à étouffer le son des cordes de la main droite pendant que l'on joue, ou le tremolo picking qui est un va-et-vient rapide du médiator sur les cordes aiguës comme sur les cordes graves. La batterie quant à elle devient un véritable arsenal, se munissant d'une double grosse caisse et multipliant les blast beats, c'est-à-dire les frappes alternatives de la grosse caisse et de la cymbale Charleston d'une part, et de la caisse claire en décalage des pieds d'autre part. Le tout à un tempo extrêmement élevé, donnant ainsi une impression de mur de son. Le chant, enfin, vous l'aurez compris, est guttural, ce que l'on appelle dans le jargon le « death growl », créant ainsi l'illusion d'une voix d'outre-tombe qui nous parlerait d'entre les morts. Mais ce qui fait surtout l'originalité et la richesse musicale du « death metal », c'est son utilisation massive de gammes mineures accompagnées de progressions chromatiques et flirtant parfois avec l'atonalité. Ajoutez à cela des structures rythmiques complexes avec de multiples changements de tempo et vous comprendrez aisément pourquoi cette musique chaotique nous plonge dans un malaise prégnant au cœur de nos angoisses. Allez, démonstration avec un autre groupe culte de l'histoire du death, lui aussi originaire de Floride et dont le premier album fut également enregistré au fameux studio Morrisound par le tout aussi fameux Scott Burns en 1989. C'est visqueux, ça colle à la peau, ça poisse comme du sang séché, ça irrite et ça rappe. Obituary, slowly we rot. Vous êtes à l'écoute d'Ayatollah of Rock'n'Rolla sur Radio Saint-Afrique et nous poursuivons notre tournée des groupes fondateurs du death metal. Fin des années 80, le genre se distingue de tout ce qui a été fait auparavant en matière de hard rock par un son bien particulier, comme nous l'avons dit, mais aussi par un univers visuel et poétique extrême et underground. La mort et toutes ses déclinaisons sont au centre des paroles des morceaux. Il y a une volonté affichée de choquer et de provoquer. Les jeunes death metalleux sont généralement issus de la classe moyenne bien pensante, dont ils cherchent à bousculer les idées. Il est évident qu'ils ne trouvent pas leur place dans la société qu'on leur propose, voire qu'on leur impose, et qu'ils se réfugient dans la musique pour exprimer sans scrupule leur mal-être le plus profond. C'est ainsi qu'ils bricolent un imaginaire morbide et sanglant, s'inspirant de la culture dont ils ont été nourris, empruntant aussi bien au cinéma d'horreur, dont ils sont fans, qu'à leurs lectures philosophico-littéraires portant sur d'anciennes croyances. Ainsi, tel le dieu romain Janus, le death metal possède deux visages. L'un se tourne vers le matérialisme et parle de cadavres, de corps en décomposition et de nécrophilie. L'autre est spirituel et s'oriente vers le paganisme, le satanisme et l'occultisme. En 1989, le groupe floridien Morbid Angel entre lui aussi au studio Morrisound et sous la houlette de Scott Burns, toujours lui, enregistre Altars of Madness. L'artwork est signé Dan C. Grave, un peintre britannique autodidacte et qui réalisera par la suite de nombreuses pochettes d'albums de groupes de death. Cela représente, je cite l'artiste, un disque plat fait de matériaux fossiles qui auraient capturé des âmes. Les paroles sont explicitement anti-chrétiennes et sataniques. Morbid Angel, Chapel of Ghouls, bienvenue dans les limbes. Allez, maintenant que nous avons bien défini ce qu'étaient les bases du death metal, nous allons pouvoir en explorer toutes les facettes. Car si le studio Morrisound à Tampa en Floride en reste l'épicentre, la popularité de cette musique prend son envol et se propage. En 1991, le groupe new-yorkais Suffocation se tourne lui aussi vers Scott Burns aux manettes et Dan Seagrave au pinceau pour sortir son premier album Effigy of the Forgotten. Cosmopolitisme new-yorkais oblige, Suffocation est l'un des rares groupes de death à compter dans ses rangs des musiciens afro-américains, à savoir Mike Smith à la batterie et Terence Hobbs à la guitare. Suffocation est également l'un des premiers groupes à créer un pont entre le death et le grindcore grâce à la voix on ne peut plus caverneuse de son chanteur Frank Mullen. Enfin, Suffocation est souvent considéré comme le pionnier d'un des multiples sous-genres du death metal, à savoir le brutal death metal. Que du bonheur, montez le son, ça vaut le détour.
Oh,
Vous avez trouvé ça violent, vous n'êtes pas encore au bout de vos peines, on reste dans la veine brutale death avec le groupe culte Cannibal Corpse, lui aussi originaire de l'état de New York. En 1992, le groupe sort son troisième album, Tomb of the Mutilated. La pochette éminemment explicite représente un cadavre masculin effectuant un cunnilingus sanglant à un cadavre féminin. Ami de la nécrophilie, bonjour. Et a été censuré, vous vous en doutez bien, dans de nombreux pays. Mais jetez donc un coup d'œil à la page Ayatollah of Rock'n'Rolla dans la rubrique émission mensuelle musicale sur le site de la radio. Et vous comprendrez de quoi je parle. Bref, la poésie de Cannibal Corpse ne fait pas dans la dentelle. Leur truc, c'est de mêler intimement le sexe et la mort, Eros et Thanatos. Un petit florilège de leur titre de chanson, I cum blood, j'éjacule du sang. Addict to vaginal skin, accro à la peau vaginale. Ah ouais, un bien dégueu, entrails ripped from a virgin's cunt, entrailles déchirées de la chatte d'une vierge. Post-mortal ejaculation. Éjaculation post-mortem. Elle plus crado pour la fin, nécro-pédophile. Ça se passe de traduction. Cannibal Corpse et leur tube Hammer's Mage Face. Attention, musique interdite aux moins de 18 ans. We'll be right back. Les morts nous parlent sur Radio Saint-Afrique dans cette émission d'Ayatollah of Rock'n'Rolla, entièrement consacrée au death metal. Début des années 90, le genre se propage enfin outre-Atlantique. En 1990 précisément, le groupe britannique de grindcore Napalm Death, emmené par son bassiste Shane Humbery, se dote entre autres d'un nouveau chanteur, Mark Barney Greenway, et fait appel au service de Scott Burns pour enregistrer son troisième album Harmony Corruption. Comme pour enfoncer le clou de la musique death dans leur punk hardcore aux paroles socio-politiques, ils s'accompagnent des chanteurs John Tardy d'Obituary et Glenn Benton de Decide sur leur titre Unfit Earth. Désolé pour la qualité médiocre du son, mais je n'ai pas trouvé mieux, alors imaginez-vous dans une vieille cave qui pue la sueur et la bière et montez le volume. We'll be right back. Et en France, alors, que se passe-t-il? Eh bien, figurez-vous, chers auditrices et auditeurs de Radio Saint-Aff, qu'en 1985, né à Lille, le groupe français de death metal, j'ai nommé Loudblast. Eux aussi s'offrent les services de l'incontournable Scott Burns et nous proposent sur leur troisième album sublime Dementia, paru en 1993, des circonvolutions alambiquées et oniriques pleines de hargne. Loudblast, Presumption. Et aujourd'hui, alors, que se passe-t-il? Eh bien, figurez-vous, chers auditrices et auditeurs de Radio Saint-Aff, que le death metal ne s'est jamais aussi bien porté. Pour preuve, les nombreux petits qu'il a enfantés. Du death metal mélodique au death metal technique, en passant par le brutal death metal, le death grind, le death doom ou bien le death metal symphonique. Allez, je vous propose maintenant un tour d'horizon du death metal contemporain, en commençant par le groupe belge Aborted et leur morceau Necrotic Manifesto, paru en 2014. Accrochez vos ceintures, détachez vos cheveux, ça va secouer. Vous êtes toujours là? Vos tympans ne sont-ils pas encore percés? On enchaîne sans plus attendre avec le groupe brésilien Crisium et leur titre Scares of the Hatred, paru en 2015. Vous étiez à l'écoute d'Ayatollah of Rock'n'Rolla sur Radio Saint-Afrique dans une émission exclusivement consacrée à l'histoire du death metal. Désolé pour les quelques enregistrements datés, un grand merci à Jean à la technique. Le mois prochain, une émission bien différente puisqu'elle sera consacrée au psyché rock grec, au Helios Anaphai Netai. Comme l'écrivait Charles Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, paru en 1857. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô mort. Appareillons, si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau.
You say that you didn't cause all this. Your God did.
I am the God! I am the God!
So let's just see who's more effective at killing.
You.
This God.